furent sortis des malles, à la plus grande surprise des commensaux. Tous les chers et les émirs de la contrée furent éblouis par Lady Esther Stanhope, dit-on. Notre repas à nous se composait exclusivement d'agneaux grillés, foin de sauce anglaise et d'ortolan, juste quelques brochettes, les premières brûlées, les secondes crues, au gré de notre feu capricieux dans le manpal de Bilger. De la viande que nous enroulions dans ce pain azyme délicieux, cette galette de blé cuite sur un dôme de métal qui, au Moyen-Orient, sert à la fois de féculent, d'assiette et de fourchette. Nos flammes devaient se voir à des kilomètres à la ronde, comme un phare, et nous nous attendions à ce que la police syrienne vienne nous déloger, mais Eshmoun veillait sur les orientalistes, et personne ne nous dérangea avant l'aube, à part la bise glaciale. Il faisait un froid de gueux. Serré autour du petit barbecue dont la chaleur était aussi illusoire que celle de millions d'étoiles autour de nous, emmitouflé dans les couvertures en laine bleu ciel de Bilger, un verre à la main, nous écoutions Sarah raconter des histoires. La petite cavité rocheuse résonnait légèrement et donnait du relief à sa voix, de la profondeur à son timbre. Même Bilger, qui ne comprenait pourtant qu'assez mal le français, avait renoncé à ses péroraisons pour l'entendre expliquer les aventures de Lady Stanhope. Il nous avait précédés sur ce rocher. « Femme au destin exceptionnel, disait-elle. Et je peux comprendre sa passion pour cette dame dont les motivations étaient aussi mystérieuses que le désert lui-même. Qu'est-ce qui poussa Lady Esther Stanhope, riche et puissante, nièce d'un des hommes politiques les plus brillants de l'époque, à tout quitter pour s'installer dans le Levant ottoman, où elle n'eut de cesse de gouverner, de régenter le petit domaine qu'elle s'y était taillé, dans le chouf, entre druzes et chrétiens, comme une ferme du Serret. Sarah raconta une anecdote sur la façon dont elle administrait ses villageois. Ces gens la respectaient singulièrement, disait Sarah, bien que sa justice orientale se trompât parfois. Elle savait l'importance que les Arabes attachent au respect des femmes et punissait sans pitié toute infraction à la sévère continence qu'elle exigeait de ses serviteurs. Son interprète et son secrétaire, fils d'un Anglais et d'une Syrienne, et qu'elle aimait beaucoup, vint lui dire un jour qu'un autre de ses gens, nommé Michel Toutounji, avait séduit une jeune Syrienne du village et qu'il les avait vus l'un et l'autre assis sous un cèdre du Liban. Toutounji soutenait que c'était faux. Lady Esther convoqua tout le village sur la pelouse devant le château. Elle s'assit sur des coussins, ayant à sa droite son gouverneur, à sa gauche Toutounji, enveloppés de leurs manteaux comme nous de ses couvertures, dans une attitude respectueuse. Les paysans formaient un cercle. Toutounji, dit-elle en écartant de ses lèvres le long tuyau d'ambre de cette pipe qu'on la voit toujours fumer sur les gravures. Vous êtes accusé d'une liaison criminelle avec Fatou Maïcha, fille syrienne, qui est là devant moi. Vous le niez. Vous autres, continua-t-elle, en s'adressant aux paysans. Si vous savez quelque chose à ce sujet, dites-le. Je veux faire justice. Parlez. Tous les villageois répondirent qu'ils n'avaient aucune connaissance de ce fait. Alors, elle se retourna vers son secrétaire, qui, les mains croisées sur la poitrine, attendait la sentence. Vous imputez à ce jeune homme qui entre dans le monde et qui n'a que sa réputation pour fortune des choses abominables. Appelez vos témoins. Où sont-ils ?
Je n'en ai pas, répondit-il humblement, mais je l'ai vu.
Votre parole est sans valeur devant le témoignage de tous les gens du village et la bonne renommée du jeune homme. Puis, prenant le ton sévère d'un juge, elle se tourna vers l'accusé Michel Toutounji. Si vos yeux et vos lèvres ont commis le crime, si vous avez regardé cette femme, si vous l'avez séduite et embrassée, alors votre œil et vos lèvres en porteront le châtiment.